Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la radio mondiale pour continuer à évoquer la Ligue des Champions puisque ce soir, quart de finale, deuxième partie. Des champions, le PSG attendu, lui, guettait ce soir au Parc des Princes face à Aston Villa. Fraîchement couronné champion de France, les Parisiens ont une dette envers leur public sur la scène européenne. Vont-ils assurer le spectacle contre des Villains en grande forme qui ont de redoutables attaquants et un gardien argentin que l'on aime détester en France ? Tous les ingrédients d'un bon match sont-ils réunis ? Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, le gardien provoque quand même assez bien les gens, donc je pense qu'il adore ça.
Oui, il adore ça.
En tout cas, il fait beau. On a une équipe du PSG qui joue bien en ce moment, et Aston Villa qui aussi joue bien, donc ça devrait être un bon match.
Ça devrait être au moins un bon spectacle, on espère. Le FC Barcelone contre le Borussia Dortmund, invaincu en 2025. Les Blaugrana sont favoris, mais les jaunes et noirs étaient finalistes l'an passé et ils savent aussi se montrer dangereux. Les deux entraîneurs se connaissent bien grâce à la Bundesliga. Une nouvelle hiérarchie est-elle en marche en Ligue des Champions ? Hier soir, deux grands d'Europe ont mordu la poussière. Le Real Madrid humiliado, comme on dit en Espagne aujourd'hui, par Arsenal. Le Bayern, chez lui, par l'Inter Milan. Mikel Arteta et Simone Inzaghi semblent prêts pour la relève, n'est-ce pas Jean-Philippe Bouchard ?
Ben oui, on va voir ça. Hein ? On a impatience.
En tout cas, ils ont fait un bon pas.
Il faut voir. Oui, bien sûr. Non, mais cette équipe nous a habitués à tellement de renversements que bon.
Ouais, mais quand même.
On va attendre un match retour. Mais
ils ont marqué.
Effectivement, sur les stats, c'est un peu 100% de qualif.
Voilà, exactement. Ils ont marqué la soirée, en tout cas, Arteta et Inzaghi. Bonjour, Ludovic Duchesne.
Oui, salut Annie, bonjour à toutes et à tous. Bah, ça change un peu, voilà, Arteta,
exactement.
Inzaghi, ça a un petit peu de jeunesse dans tout ça.
Ouais. Pour bousculer les repères. Beau.
Arteta qui est passé par le PSG.
Oui, voilà. Absolument.
En même temps que moi.
À l'époque de Luis Fernandez.
C'est Luis Fernandez qui l'avait fait.
J'ai dû faire un match avec toi. Très bon joueur.
David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est là derrière la vitre, fidèlement. Radio Foot, c'est parti.
Paris qui a tenu, qui est venu un petit peu prendre sa revanche ici à Anfield et qui vient se qualifier 4-1 au tir au but face ici aux Reds et qui vient éliminer la meilleure équipe d'Europe.
Il faudrait désormais les prendre sérieux parce que Paris, c'est magique.
Incroyable ce PSG qui est donc au quart de finale de la Ligue des Champions.
Ici, c'est Paris.
Les Parisiens reviennent dans la compétition européenne avec un nouveau statut, celui de favori, pour avoir éliminé successivement deux grands adversaires, Manchester City et Liverpool. Hasard du tirage au sort, c'est un autre club anglais, un autre de Première Ligue, qui défiera le PSG ce soir au Parc des Princes. Aston Villa qui débarque sans complexe grâce aux 7 victoires consécutives que les joueurs ont enregistrées ces dernières semaines, toutes compétitions confondues, et grâce à leur qualification directe, souvenons-nous, parmi les 8 meilleurs clubs européens, ce qui n'était pas le cas du Paris Saint-Germain. Alors ils sont sans complexe et même un brin provocateur, venons-en tout de suite à ce petit détail. Le gardien de cette équipe qu'on adore détester, l'Argentin Emiliano Martinez, qui s'était illustré par ses diverses provocations lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, on s'en souvient, et puis après, on s'en souvient aussi. Alors, une provoque de plus pour un personnage qui paraît si sympa, qui est, paraît-il, en tout cas selon certains de ses camarades, je ne citerai pas de nom, mais c'est ce que dit Lucas Digne. Ludovic Duchesne, on l'a vu débarquer hier. Bon, sa casquette, c'est évidemment un clin d'œil. Il sait qu'il est attendu, épié, et qu'on attend des petites choses de sa part.
Je vais être honnête avec vous, Annie. Moi, je différencie le joueur de l'homme. L'homme, moi, ne m'intéresse pas. Je trouve que, pardon pour les auditeurs ou pour leurs oreilles, c'est un abruti. Le joueur, par contre, lui, m'intéresse. Je trouve que c'est peut-être depuis 2 ans. D'ailleurs, depuis deux ans, il a le trophée Yashin, etc. Le meilleur gardien, peut-être depuis 2 ans. Donc, je pense que c'est le principal obstacle du Paris Saint-Germain. Lui se nourrit de, voilà, de toutes ses facéties, de toutes ses provocations. Donc il y va.
Sa casquette.
Voilà,
qu'est-ce
sa casquette avec
la Coupe du Monde,
plus ou moins un coq.
Tous ces trophées.
En référence à la Coupe du Monde avec un coq.
Les Copa América, ce qu'il a remporté. Et puis un coq un peu écrasé sous le poids des trophées. Bon.
Après, les Argentins ont beaucoup provoqué. Ils provoquent beaucoup en général. Donc on commence à.
D'ailleurs,
les
défenseurs le font aussi pas mal sur le terrain. Hein. Il n'y a pas que.
Il n'y a pas que Martinez, là, si on peut être sûr. Donc on n'est jamais déçu par les Argentins. C'est ça qui est bien. C'est qu'en général, on les aime ou pas. Mais ils ont un comportement qui est souvent assez détestable. Je ne sais pas s'ils aiment être détestés. Mais en tout cas, c'est le cas. Et ça sera le cas au Parc des Princes.
Eric, finalement, il faudrait dire aux supporters de ne pas le siffler parce que j'ai l'impression que c'est sa drogue première et celle qui le met dans un état fou pour être encore meilleur dans ses cages.
Tu le disais, Ludo, il se nourrit de ça, je pense. Vraiment.
Il le dit d'ailleurs.
Et sans oublier que c'est un bon gardien, un très bon gardien. Donc du coup, ça renforce un petit peu son mental et sa concentration sur ses qualités. Donc non, franchement... C'est vrai que ça va être un obstacle. Après,
un épouvantail, voilà, on va dire.
Il y en a d'autres. Et je pense que se focaliser sur lui, c'est un peu se déconcentrer sur le l'essentiel. Donc non, je pense que...
Nous, on met l'accent sur lui parce que quand il était venu à Lille, il a été sifflé pendant tout le match. Mais Lille avait fini par être éliminé par ce Aston Villa. Donc c'est quand même... il rentre dans la tête des gens, comme on dit, Jean-Philippe.
C'est le but. C'est les fonds milieu de la pièce. C'est sa façon de faire. C'est lui qui installe...
1m95 pour un éléphant, c'est pas mal.
C'est lui qui installe le rapport de force. Donc en fait, comme il l'a décidé, il a un coup d'avance. Mmh. C'est ça, sa technique. Et donc, il sait très bien qu'il va se faire huer par le public parisien.
Français, oui.
Lui, déjà, il se place dans cette espèce de match dans le match avec son duel avec Ousmane Dembélé, qui joue lui aussi assez gros parce que c'est le joueur du moment en ce moment. Il est sous les projecteurs. C'est la course au Ballon d'Or quand même qui se joue là en ce moment là maintenant. Ça y est, on est là-dedans, donc voilà, il prend un ascendant psychologique. Alors est-ce que ça a marché ou pas, mais on peut pas ne pas y penser. Voilà, une fois qu'il a placé le débat comme ça,
après il y a pas beaucoup de joueurs concernés quand même, faut le rappeler, c'est le Paris Saint-Germain, c'est pas l'équipe de France, hein, donc pour le coup,
le public est français, il est en France, et il y a, eu cette finale de Coupe du Monde dantesque dont on se souvient tous et dont on se souviendra longtemps.
Imagine ce match avec Colomoigny. Là, on est sur un vrai, on est sur
un vrai
retour.
Vous l'avez renvoyé.
Non, mais sur un vrai retour en là. Donc non, mais imagine psychologiquement pour Colomoigny.
Non, mais il n'y a pas que Colomoigny, parce que il y avait eu les tirs au but après pour cette finale de la Coupe du Monde, et Tchouaméni avait échoué. Il y avait Tchouaméni et puis je ne sais plus qui c'était, n'avait pas passé aussi son tir au but. En tout cas, c'est quand même... Je me souviens quand Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, mais le gardien sénégalais surtout, du Stade de Reims, dont on se souvient, il avait une histoire incroyable parce que c'était quelqu'un qui avait ramé très longtemps et qui a eu une carrière assez météorique, finalement, très forte. Mais alors lui, c'était un gentil. donc on l'aimait bien. Mais c'est vrai que Martinez, il a lambiné beaucoup. Ouais. Il a quitté Mar del Plata, qui est une des villes argentines sur la côte, mais il est parti jouer à Buenos Aires, à Independiente. Après, il est parti à 17 ans en Europe. Là, il joue à Arsenal. Il joue 10 ans, mais qui se souvient qu'il était à Arsenal? C'était 10 ans à Arsenal. Il est arrivé à Aston Villa en 2020. Il avait été prêté entre-temps à d'autres clubs. Et en fait, c'est avec Unai Emery que là, il se révèle. Il a peut-être aussi appris beaucoup de choses.
Avec les trophées qu'il a gagnés aussi, ça le met en valeur aussi.
Et c'est à partir de là, de juin 2021, c'est-à-dire un an après être arrivé à Aston Villa et un an après l'arrivée de Emery, qu'il est convoqué en Argentine et que finalement, il va faire... En tout cas, bon, c'était... une petite digression.
C'est un vrai élément.
C'est Coman, Kingsley Coman et Tchouaméni qui avaient raté leur tir au but en finale de la Coupe du Monde. Bon, voilà, c'était la digression sur l'épouvantail du jour. En tout cas, Aston Villa arrive emmené par par un entraîneur que l'on connaît bien aussi, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
Unai Emery, qui a dirigé l'équipe deux ans, voilà. Là, il en est à sa cinquième saison avec Aston Villa. Il a eu le temps de les façonner et il a été viré très sévèrement. l'assèchement de Paris, on s'en souvient. Au bout donc 2 ans, un peu renvoyé, mais il y avait eu cette fameuse remontada. Et il a un lien particulier en plus avec Luis Enrique. En tout cas, Unai Emery ne garde pas un si mauvais souvenir, finalement, de Paris.
I spent here two years and always thankful. I learned.
J'ai passé 2 ans ici, je suis très reconnaissant envers ce club. J'ai appris des choses, connu diverses expériences. Ces expériences sont derrière moi, mais j'en ai tiré le meilleur pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est la première fois que je reviens à Paris, au Parc des Princes. C'est particulier, mais je me sens bien. Je suis fier de la manière dont cela se fait avec l'équipe d'Aston Villa pour disputer la Ligue des Champions, et je vais profiter de ce quart de finale.
Playing with Aston Villa Champions League and trying to enjoy this quarter of finals.
Eric, est-ce qu'on peut s'attendre à un entraîneur qui vient aussi d'une certaine façon face au Paris Saint-Germain, même si on a cherché dans les archives, ils se sont rencontrés une fois il y a bien longtemps quand lui il était à Arsenal. Est-ce que on peut parler d'un personnage qui a envie d'une revanche?
C'était il y a tellement longtemps et puis je suis pas sûr qu'il
il a gagné d'autres Ligue Europa
il a eu d'autres expériences, il est passé par Arsenal, il n'y a pas de perte de valeur pour moi en revanche de quoi que ce soit. Il y a l'épisode évidemment
avec
de la remontada,
Nasser, donc le président quelque du part, club
non
finalement.
Je suis même pas sûr que ce soit évidemment que c'est des moments un peu plus difficiles dans une carrière d'entraîneur, mais il a vécu tellement d'autres choses après ça que je suis même pas sûr. Il l'a dit, c'est dans son passé, je crois pas que ce soit quelque chose qui l'ait traumatisé, c'est comme ça, c'est une expérience comme une autre. Et puis après, derrière, évidemment qu'il aura envie de gagner, mais sinon, en dehors de ça, je suis pas sûr que ce soit dans l'esprit de revanchard.
Jean-Philippe Bouchard, en tout cas, cinquième saison avec Aston Villa, on a l'impression que là, il a mis en route quand même une machine de guerre qui marche bien pour un club de cette taille, de Birmingham, avec un budget qui n'est pas énormissime, hein, c'est pas un puits sans fond. Il a peaufiné ça, il vise le Big Four et c'est pas, ils sont septièmes, mais en nombre de points, ils sont à 2 points. Et surtout, il a renforcé son attaque au cours de la mi-saison, et plutôt bien avec Watkins. Il a ajouté Asensio, que le Paris Saint-Germain connaît, et Rashford.
Oui, tout. En plus, il a un profil de joueurs qui sont, qu'il a choisi, qui sont un peu à son image, un peu... Très engagé, revanchard, beaucoup de dépenses physiques. Hein, ils finissent tous les matchs, ils sont épuisés à chaque fois. C'est peut-être la limite d'ailleurs du management. Et là, en fait, il est dans une période.
Tous où, veulent prouver quelque chose.
Où lui, et l'équipe et lui, l'idée c'est de ne pas être un super entraîneur d'équipe moyenne. Voilà, ils veulent prouver que c'est une grande équipe. C'est peut-être là qu'était le malentendu quand il est passé au PSG. C'est que le PSG, à chaque fois qu'il recrute un entraîneur, il était recruté en grande pompe en 2016. Il est recruté en grande pompe. C'était pour gagner la Ligue des Champions. C'était annoncé à chaque fois, comme c'est annoncé au PSG. Il ne l'a pas fait. Et il reste quand même sur cette frustration. Et ça lui colle encore un petit peu au crampon, là, de grand entraîneur d'équipe moyenne. Et là, il est dans la situation où peut-être... Il peut passer le cran, quoi, en faisant d'Aston Villa une grande équipe. Et là, quand on recrute un Rashford ou un Asensio, on est déjà dans le...
Voilà. On a de l'ambition.
Moi, je pense Ludovic. Que simplement, il fait deux huitièmes de finale au Paris Saint-Germain. La deuxième, c'est contre le Real Madrid, ils se font éliminer. Moi, je pense peut-être et sans doute qu'il n'est pas fait pour entraîner des grands clubs. Je ne veux pas être méchant ni quoi que ce soit.
Donc
je
vous
pense
êtes
que
c'est dans la pensée générale de grands entraîneurs pour petites équipes.
C'est un constat. Je pense qu'Aston Villa... Allez, c'est à peu près l'équivalent de Séville. Donc voilà, il en fait. C'est un bon club anglais. Il a des bons résultats. Il construit. Il est avec sa philosophie. C'est des joueurs. Les Français, Digne, Camara. Voilà, c'est des bons joueurs internationaux. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'avec des stars, il n'a pas le même rapport, comme Luis Enrique, qui a tout de suite, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, écarté toutes les stars. Donc voilà, parce que Luis Enrique a plus d'expérience et je pense qu'il ne voulait pas s'embêter. C'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de travail avec Neymar, Verratti, qu'avec des jeunes de 20 ans comme Neves et autres. Donc je pense que tout simplement.
Là, il a plutôt des joueurs d'expérience, globalement.
Oui, Unai Emery. Mais
les jeunes, c'est ceux du PSG. Les jeunes joueurs.
C'est l'équipe la plus jeune de Ligue des Champions, donc de celle qui reste en tout cas. Mais il n'y a pas vraiment de star dans cette équipe d'Aston Villa. Peut-être Watkins, je ne sais même pas s'il sera titulaire. Rodgers qui a explosé cette année. Et les stars, c'est celles qu'ils ont prises. C'est Rashford, la star, finalement.
Bah oui.
Et
Asensio.
Et Asensio, mais son mérite, c'est ça, c'est d'avoir relancé.
Et qui sont dans la relance.
Un joueur comme Rashford, ça, c'est très, très fort.
Mais sinon, il veut prouver à Manchester United ce dont il est
capable. La saison d'Aston Villa, en tout cas en Première Ligue, est assez moyenne à l'image de leur match. Hein. Le dernier match de Première Ligue, c'est une mi-temps sur deux. Ils ont été complètement absents la première mi-temps, ils sont bons en deuxième. Et ils font une saison très, très faite de haut et de bas. Donc c'est une équipe qui manque de régularité au très haut niveau. Et c'est là-dessus que le Paris Saint-Germain, à mon avis, à mon sens, doit faire la différence.
Eric, ouais,
juste pour revenir sur Emery, il a... évidemment, je pense qu'il a, pas les épaules pour gérer des caractères difficiles. Là, c'est là qu'on parle de star ou de.
Alors, pour avoir bien vécu la période d'Emery au PSG, la direction du PSG lui a pas facilité la tâche non plus. Hein.
C'est évidemment. C'est que quand même. Là aujourd'hui, quand tu vois, le travail de Henrique. Il a aussi toutes les cartes en main pour pouvoir le faire, pour pouvoir écarter tout le monde. Donc, il y a un respect derrière ce personnage qui est Henrique, qui fait que aujourd'hui, son idée et tout ce qu'il a voulu mettre en place, il a pu le faire parce que on l'a laissé travailler normalement. Emery, évidemment que comme Tuchel, comme les autres, c'était compliqué de le laisser travailler.
Alors, parce
que
pas la même époque.
Voilà, et puis il n'y avait pas le même respect, il n'y avait pas la même peut-être la même compréhension aussi des dirigeants. Et puis ils ont compris aussi que. Avec tous ces échecs, erreurs, tu te dis, il faut quand même peut-être commencer à laisser travailler les gens.
En tout cas, on a deux dynamiques parallèles. On a Aston Villa, donc, qui allume les victoires. Et puis, on a le Paris Saint-Germain, sacré samedi soir champion de France. Vous en êtes glorifié lundi dans cette émission. Ah bah oui. Eric, vous étiez tout heureux.
Bon. On banalise pas les
Alors, une équipe
titres,
qui impressionne aujourd'hui par son jeu, mais quand même, les trois dernières rencontres n'ont pas été super... impressionnante de la part du Paris Saint-Germain. En tout cas, ils ont montré que quand même, ils savaient renverser les situations quand ils sont menés au score, quand ils jouent à l'extérieur. En tout cas, Luis Enrique, ce qu'il refuse, c'est le statut de favori.
Je pense que nous sommes autant favoris que lors du tour précédent contre Liverpool, alors que tous les pronostics disaient que nous n'avions aucune chance, ou très peu. Dans le football, il n'y a pas de favoris. Il y a 8 équipes à ce stade de la compétition, et si elles y sont, c'est qu'elles l'ont mérité. Ce sont 8 équipes qui peuvent toutes accéder au tour suivant, et la route est pleine de favoris éliminés. Alors nous allons essayer de mériter la victoire, de gagner le match et cette confrontation sur le terrain, là où les choses se jouent vraiment et où c'est le plus difficile.
Alors peut-être pas Luis Enrique, mais est-ce que d'une façon globale quand même, on n'a pas l'impression, Eric, que les Parisiens sont un peu sur deux?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, franchement, et encore moins cette année, puisque vraiment, ils ont montré quand même qu'il y avait un vrai recul de ce côté-là et qu'ils jouaient tous les matchs de la même façon. Alors évidemment que les trois derniers était un peu plus difficile, mais je pense qu'il y a aussi derrière une gestion physique aussi. Je pense qu'il y a une gestion physique aussi derrière tout ça, qui est importante parce que les échéances en Ligue des Champions deviennent de plus en plus dures. Quand on voit le match d'hier entre Arsenal et Real, il vaut mieux être bien physiquement. Donc j'ai envie de dire que je pense que inconsciemment c'était un peu ça, et aussi parce que tu maîtrises aussi tes qualités, c'est-à-dire que tu es capable de savoir que derrière tu peux faire la différence à n'importe quel moment. C'est ça le changement aussi du Paris Saint-Germain. C'est qu'avant, tu partais un peu... Tu avais les qualités, mais tu ne savais pas trop où tu allais. Aujourd'hui, je pense qu'ils savent où ils vont. Et du coup, ça facilite un petit peu le travail.
Et je pense que la grande différence entre le Paris Saint-Germain des années précédentes et cette saison, en tout cas, il n'y a pas de blessés. Et ça, c'est tout nouveau au Paris Saint-Germain.
C'est là où il est fort, Enrique.
Il faut lui rendre. Moi, je ne suis pas d'accord sur plein de choses avec Luis Enrique, mais ça, il faut lui rendre à lui et pas que lui, parce que c'est tout son staff qui ont fait un travail magnifique. Il n'y a pas un blessé.
Et les joueurs aussi.
Et ça, c'est exceptionnel.
Parce que les joueurs, ils sont concernés. Et du coup, dans le travail et dans la préparation des matchs, il y a peut-être un peu plus de sérieux et un peu plus de professionnalisme. Et derrière, ça ne vient pas par hasard. Il est capable de mettre la pression à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de titulaire. Donc, comme il n'y a pas de titulaire, si t'es pas bon quand tu joues, mmh. Tu vas pas jouer derrière. Donc là, il y a aussi psychologiquement une préparation importante.
Jean-Philippe, ces Parisiens, ils veulent pas assumer un statut de favori qu'on leur a mis, vu les prestations qu'ils nous ont déjà montrées. On les voit déjà aller encore plus loin.
Le gros morceau cette année, c'était Liverpool. Ils les ont éliminés. Donc logiquement, ils sont favoris.
Et là-bas, en plus, ce qui était pas mal.
C'est imparable. Après, ils ont vraiment mieux joué que Liverpool sur les deux matchs. C'est mmh. indéniable. Mais ils ne les ont pas battus sur les deux matchs, finalement. Ça se décide au tir au but. Et en particulier au match aller qui perdent, alors qu'ils dominent outrageusement.
T'as donc gagné 1-0 quand même, retour.
Voilà, oui, même ok, si, mais sur si les deux matchs, pénalty, sur les deux matchs, tu ne gagnes pas, alors que
t'es
bien
tu
meilleur.
Quand tu vois le visage de... Évidemment que tu perds 1-0 sur le premier match, mais le premier match est tellement impressionnant de la part des Parisiens que tu te dis...
T'es pas inquiet. T'es pas inquiet. Ça passe, mais ça passe au tir au but. C'est la seule limite que je vois à ce PSG qui est vraiment une prétendante au titre cette année. Parce que,
au titre européen.
Ouais, au titre européen. Oui, c'est les autres, l'autre, c'est fait.
L'autre, ils l'ont.
Et puis, pour la Coupe de France, ça va être fait aussi. Mais c'est,
non, non.
Mais l'enjeu, il est là. Et donc, sur ce gros rendez-vous qui était les deux matchs contre Liverpool, ils gagnent pas. Ils se qualifient, mais ils sont bien meilleurs.
Dans l'approche, c'est différent, comme Jean-Philippe.
Et ce que je veux dire, c'est là où il y a une petite incertitude. Ils sont très forts, très bons, les matchs comme ça, il faut pouvoir les tuer.
Parisien, c'est que si jamais, Eric, et c'est à toi que je veux le dire, jamais les Parisiens pensent que ça va se faire assez facilement, et que c'est Aston...
C'est
non, mais tu sais pas ça.
Non, mais
franchement,
c'est impossible.
Mais moi, je sais pas. C'est très parisien, quand même.
Ouais, mais
si
là,
jamais
pense
ça,
ce
alors là,
là, c'est plus ces Parisiens.
Il y aura grosse désillusion.
Vraiment,
je te le dis.
Je te jure, par rapport à ce qu'ils ont montré et aujourd'hui, et par rapport à Enrique dans sa façon de penser, vraiment, je suis sûr et certain qu'ils vont pas arriver comme ça.
Souvenons-nous du match.
Ils peuvent perdre, je parle pas de...
Souvenons-nous du match aller.
Mais par contre, si tu les prends comme ça, non.
Souvenons-nous du match aller contre Liverpool, donc à domicile au Parc, qui domine de la tête et des épaules pendant 50 minutes. Et au bout d'une heure de jeu, ça commence à devenir compliqué et Liverpool a des occasions et ils commencent à surjouer, comme on dit, c'est à tirer de trop loin, trop fort, enfin voilà. Et ils perdent ce match. Et ils le perdent, c'est injuste parce qu'ils ont beaucoup mieux joué. Mais c'est aussi le foot où il y a peu de points. Et là, le risque.
Je te rappelle
c'est
la performance du gardien aussi de Liverpool quand tu joues Liverpool.
Oui, mais ce soir, il y a Emiliano Martinez.
C'est pour ça que c'est des configurations qui sont intéressantes parce qu'elles sont semblables en fait.
Non, mais Eric n'est jamais inquiet. Je crois que les auditeurs le savent.
Ça, c'est pas ça qui va m'inquiéter.
Avant le match,
l'état d'esprit des Parisiens ne m'inquiète pas.
Enregistrer la phrase d'Eric, là, je
ne l'état d'esprit des Parisiens ne m'inquiète pas. Ça ne dit pas qu'ils vont gagner, je dis simplement que ça m'inquiète pas.
En tout cas, on sait, vous l'avez cité tout à l'heure, que l'un des joyaux de l'attaque parisienne actuellement s'appelle Ousmane Dembélé, mais il y a aussi un très jeune qui est très doué, n'est-ce pas ? Beaucoup de sang-froid, et il peaufine son jeu en écoutant les conseils. C'est bien sûr Désiré Doué au micro de Cédric de Oliveira.
Je suis encore un très jeune joueur, donc j'essaye de progresser au quotidien. Je suis très bien entouré, il y a beaucoup de très grands joueurs dans cette équipe qui m'apportent beaucoup. Les cadres aussi sont là pour me conseiller, me recadrer quand ça va un peu moins bien. Voilà, aujourd'hui, je suis dans une bonne forme, dans une bonne progression et il faut que ça continue. Je dois progresser sur beaucoup d'aspects, même sur l'aspect offensif, bien sûr. Et il y a le coach, le staff, les joueurs qui m'ont beaucoup conseillé parce que des fois, j'en faisais peut-être un peu trop. J'en fais toujours des fois un peu trop peut-être. Mais voilà, j'essaie de tout le temps me remettre en question, mais toujours garder ma personnalité et ce qui fait mon style aussi.
Désiré Doué sur la pelouse tout à l'heure, peut-être, sans doute, en tout cas s'il n'est pas titulaire, au moins remplaçant, on va le savoir d'ici peu, mais c'est la valeur montante dans cette équipe, ouais. Eric.
Ouais, ce qui est intéressant et surprenant de sa part, parce qu'il a 19 ans, c'est qu'il a une maturité dans l'approche de sa carrière et de son travail, en fait.
Je crois qu'il s'imite maintenant les uns les autres, non ?
Ouais,
tous ces jeunes.
Mais je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression qu'il a les pieds sur terre et que dans sa progression, il est en mission, j'ai envie de dire. Et du coup, progressivement, il accumule un petit peu tout ce qu'il a besoin pour atteindre son objectif. Et c'est assez impressionnant parce qu'il est quand même...
On avait Olysé hier avec
le
Bayern.
Il a un recul, ouais. Non, mais il a un recul sur les choses parce qu'il arrive... Au début, ses premiers matchs, on se disait, bon... Et derrière, il se métamorphose et il est capable de prendre des risques qu'un jeune en général ne prend pas forcément. Bah lui, il se pose pas de questions et ça fait partie de ses qualités. Et c'est pour ça qu'il va, il va progresser très vite, je pense.
Jean-Philippe, sur Désiré Doué.
Non, mais il est en confiance là. Il est on fire en ce moment. C'est, ça arrive. Enfin, c'est, il a énormément de qualités. Hein, c'est indéniable. Et après, la question, c'est faut voir sur le temps moyen parce qu'il y a des, toujours quand on est jeune et même Mbappé a connu ça, il y a des temps moins bien et la question c'est comment on s'en remet et comment on se relance, c'est toujours pareil, là il est super, il est dans une phase ascendante et ça peut aller très très haut, ça peut être formidable pour lui, après il y aura forcément à son âge un moment où il va avoir carburé un peu moins bien et c'est ce moment là où il faudra qu'il soit bien accompagné, bien géré pour pouvoir repartir.
Mais voilà, je suis d'accord. Je pense qu'il l'est parce qu'Enrique va être capable de faire ça.
Quelle importance accorder, là je m'adresse à l'ancien capitaine de ce Paris Saint-Germain, à l'absence de Marquinhos. Marquinhos, le capitaine, le Brésilien, suspendu pour ce match, est suppléé par un autre Brésilien, Beraldo, mais qui n'a pas encore son niveau.
Qui n'a pas encore son niveau du tout. Je ne sais pas s'il l'atteindra un jour.
Voilà. Parce que... Non, mais ça, après, je vous laisse Beraldo, le dire.
Non, mais il y a une vraie absence. Là, on peut dire ce qu'on veut sur Marquinhos. Moi, j'aime beaucoup et encore plus cette année.
Ouais.
Mais Beraldo, ce n'est pas Marquinhos. Et ça m'inquiète sur les coups de pied arrêtés, sur les marquages, sur la vitesse dans le travail défensif, dans son dos. Donc, ça fait beaucoup de choses qui... J'ai entendu... que peut-être on parlait d'Hernandez, ce qui me rassurerait peut-être un peu plus.
Lucas mais Hernandez,
je suis pas sûr qu'il soit... peut-être qu'on mettrait Hernandez dès le départ et Beraldo après. Là, ça me rassurerait un peu plus, parce que je sais que dans le... ça a été... Mais franchement, moi, je préfère avoir un défenseur d'expérience comme Hernandez pour gérer, et la pression et les duels. Parce que
Beraldo, il est intéressant sur les phases offensives. Il est,
et dans la construction du jeu, il est intéressant pour son pied.
Il peut être un vrai atout. Par contre, effectivement, sur le replacement,
c'est sa base, normalement.
Et effectivement, ça peut être une faiblesse du PSG.
Rendez-vous donc en sortie de match pour notre deuxième émission, vous le savez déjà. Mais en Catalogne, eh bien, il y aura un match là aussi et les Blaugrana sont sur la pelouse. Alors, objectif triplé hein, pour les Blaugrana. On en a parlé dans le Café des Sports l'autre jour. Ils sont conscients de leur force. Ils sont invaincus en 2025 avec 22 matchs sans défaite. Les joueurs du FC Barcelone savent qu'ils sont sur une dynamique impressionnante. Ils accueillent le Borussia Dortmund ce soir. Alors, on peut penser que les Blaugrana du FC Barcelone sont donc les favoris, d'autant qu'ils se sont rencontrés durant la phase de Ligue ou de ce qu'on veut, en tout cas en première partie de saison européenne. Et ils avaient réussi à s'imposer, mais sur un score de 3-2 là-bas à Dortmund. Donc ça avait été très disputé. Et du coup, le milieu de terrain catalan Gavi, hier en conférence de presse, reconnaissait qu'il ne faut pas se sentir
trop
invincible.
Nous réussissons une saison spectaculaire, mais nous ne nous sentons pas invincibles. C'est le football, tu ne peux pas toujours gagner. Nous devons jouer avec humilité et nous souvenir d'où nous venons. C'est ça qui est important pour garder les pieds sur terre. Il y a encore beaucoup de matchs à disputer et nous voulons remporter le plus de titres possible. Mais nous devons y aller étape par étape.
Bon, étape par étape, mais Ludovic Duchesne, là, c'est vrai qu'ils sont réalistes, ces Barcelonais, mais nous aussi. Et quand on regarde les statistiques, depuis le début d'année, ils mettent un nombre de buts absolument incroyable. On a l'impression qu'ils mettent la pâtée à tout le monde. En l'occurrence, on les attend et à juste titre.
Oui. En plus, avec le retour, on vient de l'entendre de Gavi. Donc, ils sont pratiquement au complet, eux aussi. Il n'y a pas grand monde.
Le coup de mou, ils l'ont eu avant.
Il n'y a pas grand-chose qui leur résiste. Il manque en plus des joueurs du côté de Dortmund. Sabitzer n'est pas là, Schlotterberg n'est pas là.
Il lâche pas la tête
du
championnat.
Et l'autre avantage, je trouve, c'est Hansi Flick, qui connaît parfaitement, évidemment, le football allemand. Donc, il maîtrise son Dortmund par cœur.
Et Niko Kovac, puisqu'ils sont déjà rencontrés en tant qu'entraîneur.
L'un était adjoint de l'autre. Enfin, voilà, c'est du passé. Mais quand même, Annie, je veux quand même dire qu'il y a un mais, parce que Dortmund, moi, c'est une équipe... qui ne m'impressionne jamais
L'année dernière, c'était l'invité surprise.
Exactement.
J'avais même éliminé le Paris Saint-Germain.
Je ne sais pas, je n'étais pas là.
Lille. Non, mais là, contre Lille, on avait l'impression que les Lillois.
Oui, vous avez confiance.
Toujours. Les Lillois pouvaient passer et finalement, ils ne passent pas. C'est toujours la même chose avec Dortmund. Et autant ils sont à la rue en Bundesliga.
Et ils commencent à remonter quand même.
Ouais, hein, ils partent de loin.
Oui.
Mais je ne sais pas s'ils arriveront à être européens. Mm-hmm. Autant dans cette compétition. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un mais avec Dortmund parce qu'ils, là, pour le coup, ils ont vraiment l'expérience. Et que je pense que Barcelone ne fera pas cette erreur de les sous-estimer.
Eh bien, on va écouter justement le défenseur du BVB, des Jaunes et Noirs, Valdemar Anton, parce que vous allez l'entendre, il s'est un peu préparé à l'orage catalan.
Barcelone est capable de faire tellement de choses au cours d'un match qu'il est impossible de se préparer complètement à les affronter. Nous devrons avant tout bien défendre en équipe et nous accrocher. Je pense que c'est la chose la plus importante. Si nous arrivons à bien défendre et à produire sur le terrain ce que nous voulons faire, nous serons capables de les contrarier.
Jean-Philippe Bouchard, effectivement, le déluge du feu adverse peut arriver via Barcelone. Toujours beaucoup de buts, mais quand même, effectivement, cette équipe, elle était finaliste l'année dernière. Elle n'a pas été championne d'Allemagne non plus.
Non.
Et il y a une. On a l'impression que Niko Kovac, qui est là pour les relancer, ben, il y arrive quand même.
Ouais, alors c'est. On est un peu dans le cas avec Niko Kovac, c'est d'un entraîneur qui est réputé pour faire très bien jouer des équipes moyennes.
On y revient.
Mais c'est vrai que lui aussi, il a un défi avec cette équipe de Dortmund. Il fallait qu'il se relance. Après, sur le papier, c'est quand même une des rencontres les plus déséquilibrées là, des quarts de finale. Quoi, en
Barcelone. La plus déséquilibrée.
Ouais,
le match retour sera quand même au Westfalen Stadium.
Ouais.
Là où il y a ce fameux mur jaune, mais en tout cas où il y a une pression, où il y a on impressionne l'adversaire, où on essaye, là où il y a une ferveur et tout. Alors là, peut-être que ce soir, s'il limite le score.
C'est exactement ce que disait
Anton,
hein. Ouais, limiter la casse. Ouais, c'est leur objectif, limiter la casse en se disant qu'au retour, avec le soutien du public, s'ils arrivent à faire douter un peu les Barcelonais, mais ça serait les premiers de l'année civile à les faire douter. Hein, parce que
je ne suis pas sûr que le stade de Dortmund déstabilise l'équipe de Barcelone. Après, évidemment, c'est toujours un plus.
Ça dépend
du
nombre de buts qu'ils auront d'avance, ouais, peut-être.
Ouais. Mais même sans ça, je pense que Barcelone ça va être dur sur deux matchs. Mais voilà, après, Dortmund, ce ne sera pas un match facile pour Barcelone, c'est sûr.
Mm-hmm. Ouais. Même si leur défenseur, à eux aussi, est...
Klosterberg est absent.
Oui, absent ou incertain, ce n'était pas encore carrément absent.
Sabitzer aussi. Sabitzer aussi, oui.
Mais ils ont des ressources, voilà, on va pas faire le fameux cliché des Allemands.
Non, mais
c'est vrai, donc forcément, je pense pas que Barcelone puisse se tromper vraiment et les prendre de
et
haut.
Le coach de Barcelone est un Allemand.
Oui.
Donc, est-ce que ça va jouer un peu dans les têtes,
il les connaît par cœur, là-dessus, c'est un avantage.
Bon, ça sera très intéressant là aussi, et ça sera du côté de Barcelone, et nous en parlerons aussi dès 21h10 temps universel en sortie de rencontre. Mais pour l'instant, quelques notes de musique jungle avec Keep Me Satisfied. c'est à écouter si vous avez aimé sur la playlist de RFI Music Jungle, Keep Me Satisfied. On va rester dans ce chapitre Ligue des Champions, mais on va revenir sur la soirée d'hier.
C'est un Inter hyper solide, un Inter hyper réaliste, un Inter hyper efficace qui prend au piège le Bayern et qui s'impose à l'Allianz Arena, prenant du même coup une belle option pour la qualification en demi-finale.
Grazie a Lautaro Martinez, gol meraviglioso con Lovati.
It's Rice again. Oh my goodness, incredible.
Declan Rice qui permet à Arsenal de croire en une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il y aura un match retour mercredi prochain au Bernabeu. On sait le Real capable de tout. Mais Arsenal a fait un grand pas ce soir.
Two unbelievable free kicks from Declan Rice.
Alors certes, tout est possible dans le football, mais les dieux du foot semblaient les avoir abandonnés hier soir, pas impressionnés par leur nombre de victoires dans cette compétition. Le Bayern et le Real, c'est quand même 21 titres à eux deux. Hier soir, le Bayern donc a été battu sur sa pelouse par une équipe de l'Inter, sans doute très réaliste et efficace, qui a inscrit d'ailleurs deux très beaux buts, alors que le grand Real quittait Londres assommé par sa défaite 3-0. Humillados, c'est l'adjectif choisi par la presse espagnole ce matin à Madrid comme à Barcelone. Est-on en train de voir, les amis, de nouveaux invités dans la Ligue des Champions ? Alors, Vincent Kompany, en tout cas l'entraîneur du Bayern, lui est un peu nouveau, certes, mais le Bayern, par contre, ne l'est pas. Il préfère voir le verre à moitié plein sur cette rencontre.
Non, alors, erstmal, wir haben das Spiel gut angefangen.
Nous avons bien commencé le match en dominant nettement la première demi-heure et en nous créant des occasions qui auraient pu nous permettre de marquer un ou plusieurs buts. En seconde période, nous avons continué à presser, nous nous sommes créés là encore de belles opportunités. Thomas Müller, qui joue toujours un rôle clé pour nous, est entré en jeu et a marqué ce but important. Maintenant, chacun fait son travail en étant concentré sur son rôle. Toutes les décisions que j'ai pu prendre étaient purement orientées vers le football et la tactique. À la mi-temps des deux rencontres, le score n'est que de 2-1 en faveur de l'Inter. Notre objectif à présent est donc d'aller gagner à Milan.
Gut, es ist Halbzeit, steht 2-1 für Inter und wir müssen in Mailand jetzt gewinnen.
Évidemment, il y a toujours des manières de voir les choses. Mais Jean-Philippe Bouchard, est-ce qu'hier quand même, l'Inter Milan, certes finaliste il y a deux ans contre Manchester City, deux fois champion d'Italie et sans doute en voie d'être sacré à nouveau. Mais cette équipe qui a peut-être moins de noms ronflants, surtout moins de titres que le Bayern, est-ce que là, comme dans le cas d'Arsenal qui a vraiment renversé le Real, est-ce qu'on a eu des statuts qui ont été secoués hier soir ?
Bah oui, parce que le Bayern, c'est quand même un habitué des demi-finales ou des finales, que cette année, ils ont un rendez-vous quand même dans leur stade à Munich pour la finale.
Le
c'est
Bayern,
quand même l'objectif du club. Voilà,
clairement.
Voilà. Et là, ils se sont fait surprendre par une équipe dont on parle souvent en Serie A. Et puis bon, on a vu, c'est la seule survivante des représentants italiens. Donc,
ils étaient eux aussi dans les 8 premiers classés, ils n'ont pas fait les barrages, donc ça commence à signifier quelque chose.
Voilà, donc c'est une équipe très solide, on le sait.
Ils ont encaissé 3 buts, je crois.
Donc là, peut-être que le Bayern s'est vu un peu trop facile parce que l'Inter, c'est pas parce que
Ou est-ce qu'ils pouvaient faire mieux?
Ouais, je sais pas, mais
la question, elle est réelle. Hein.
Le Bayern, ils ont un peu le même problème que le PSG en championnat, c'est-à-dire qu'ils dominent de la tête et des épaules. Ils n'ont pas toujours une adversité énorme et que en Ligue des Champions, des fois, c'est le cran du dessus quand même. Et là, c'est un peu le sentiment qu'on a que l'Inter leur a beaucoup plus résisté que ce à quoi ils s'attendaient et que ils n'ont pas super bien réagi. Alors après, ça reste
tout
le Bayern.
Comme
il n'y a qu'un but d'avance, c'est pas fait.
Et est-ce que, alors on sait que tout est possible au retour, mais quand même, le Bayern, justement, Ludovic, ils la veulent cette finale finalement, puisque c'est eux qui l'organiseront indirectement dans leur stade. Et là, tout reste possible, mais quand même, il y a quelque chose d'écorné, non ?
Oui, Ils ont plutôt dominé. Ils ont
on
eu
parle
ballon.
Peut-être pas de Omilia Xion non, mais... du côté de
non,
l'Allemagne.
Même, là, faut pas exagérer. Mais quand même, à domicile, tu perds chez toi. Ils ont tiré 20 fois au but. Ils ont marqué une fois. Ils ont vraiment eu des occasions. Mais en face...
Obligé d'en appeler à Thomas Müller, le vieux voilà, grognard, on va dire. En plus, le champ du cygne.
Mais en face, non, t'as une grande équipe en face. Et t'as des grands joueurs sur le terrain. Moi, l'Inter, y a des très grands joueurs dans cette équipe. Donc, ça me fait penser à l'Italie d'avant. Enfin, là, c'est vraiment le football où tu résistes. Et avec un talent fou, parce que Lautaro Martinez, sans doute l'un des meilleurs attaquants européens. Donc, ils ont tout. Les Bastoni, les Barella, les Çalhanoğlu, les... C'est très très fort, donc ils se sont fait surprendre, se sont fait avoir en fait. Et ça sera très compliqué d'aller
en face. Matteo Cioffi disait ils sont très malins, très rusés, ils savaient exactement quelle tactique suivre et quel chemin de jeu suivre.
Bayern est tombé dans le panneau. Hein.
Ouais. Quand tu vois l'interview d'Inzaghi avant, tu as presque envie de pleurer en disant oh, les pauvres, ils vont aller à l'abattoir en Allemagne, et tu sais très bien que c'était un positionnement pour prendre l'ascendant aussi derrière sur le terrain, qui en fait ils l'ont très bien fait. Et ouais, ça va être difficile pour le Bayern, franchement. Ce Bayern qui est moins équilibré que l'Inter. L'Inter, elle a quand même l'équilibre défensif-offensif qui est quand même très intéressant. Ah oui, oui. Il y a moins d'équilibre du côté du Bayern. Donc tu vas être obligé d'aller chercher un score. Et derrière, l'Inter peut en profiter. Ils ont mis deux buts. Le premier est magnifique. La talonnade de Thuram, là, ouais, elle est incroyable, ouais. Franchement.
Non, mais ils ont mis des buts, même le deuxième, il est incroyable. Jean-Philippe, vous voulez rajouter ?
Et puis, ils ont quand même un Lautaro Martinez, qui on parlait de la course au Ballon d'Or tout à l'heure. Lui, il est clairement dans la course aussi, vu ce qu'il fait en Serie A et puis en Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça compte d'avoir un super joueur comme ça. En face, c'était flagrant. Le Bayern, ils ont perdu Lewandowski, remplacé par Kane.
Kane qui a raté dingue.
Là, on voit pas bien pourquoi il fallait laisser partir Lewandowski. En fait, on n'a pas trop vu la plus-value, là, pour le coup. Alors que Lautaro Martinez, on voit la plus-value. Ouais. C'est clair.
Ouais. Le Toro, comme on le surnomme, lui aussi champion du monde. Hein, parce que c'est un extérieur, Argentin, là, Lautaro Martinez.
Son extérieur du pied est magnifique, franchement.
Oui, c'est vraiment un but incroyable. Alors, les statuts contestés, peut-être des clubs, celui aussi des entraîneurs, sans doute. Et l'exemple, c'est Mikel Arteta, qui a gagné la bataille hier soir face à Carlo Ancelotti, le Mister aux 5 trophées européens. Est-il dépassé ? En tout cas, il essayait lui aussi de voir de l'espoir dans cette défaite.
Cette défaite est évidemment difficile à encaisser, on ne s'y attendait pas. Pendant une heure, l'équipe a pourtant montré un bon niveau de jeu avec une première mi-temps, je trouve, plutôt bien organisée. Hélas, après avoir encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté, nous avons fléchi mentalement et physiquement. Terminer le match de cette manière a donc été très compliqué, car nous n'avons pas su réagir, contrairement à notre habitude. Les 30 dernières minutes ont été particulièrement mauvaises. Il est essentiel de faire preuve d'autocritique, de réfléchir et de tout mettre en œuvre pour bien récupérer dans une semaine. Il faut y croire. Après un match et un résultat décevant, il faudra réagir et prouver que nous en sommes capables.
C'est une opportunité de réagir à un mal parti, à un mal résultat, et à voir si nous sommes capables de le faire.
Et oui, serons-nous capables de renverser la situation ? Bon, on dit que le Real est capable de tout, et évidemment, on veut y croire. Pourtant, au lieu d'une défaite, on pourrait aussi parler d'une déroute, mais on avait l'impression que cet entraîneur, Jean-Philippe, Carlo Ancelotti, avec l'aura qu'il a, il était un peu sans idée hier soir ou sans alternative. Il fait des changements. En plus, Manu Terradillas, notre confrère espagnol qui suit le Real au jour le jour, nous dit que c'est toujours les mêmes changements, c'est poste pour poste, il n'y a pas d'innovation. Il a l'impression que quand même, alors que Mikel Arteta, tout avait l'air très clair.
Quelque chose qui est passé un petit peu, qui a été passé sous silence, mais qui, je pense, est assez important dans l'histoire, c'est que Carlo Ancelotti a eu un procès cette semaine pour fraude fiscale. Alors, je ne sais pas s'il était, lui, il dit qu'il n'était pas au courant, et il a été quand même, c'est requis quand même.
4 ans et demi de prison.
De prison.
Ferme en plus.
Ferme.
Requis.
C'est très lourd. Donc le jugement est en délibéré là, mais
il avait la tête ailleurs.
Je pense que la plus-value
ils ont tous été condamnés, mais ils vont jamais en prison.
Non, mais c'est pas, il n'ira pas en prison, mais
comme Messi, comme Neymar, voilà. Le père et tout ça.
La plus-value d'Ancelotti, c'est un management très humain. où il arrive à des joueurs. Il a des joueurs extraordinaires et il arrive à faire qu'ils se subliment, qu'ils arrivent à sortir le meilleur d'eux-mêmes parce que il est très proche de ses joueurs, très humain. Et là, je ne sais pas, on n'était pas dans le vestiaire, mais il était très marqué à l'issue de l'audience. Je me demande si, dans son attitude après ça, il n'a peut-être pas réussi à transmettre autant qu'il peut faire, parce que ce Real, il est un peu K1K cette année. Il s'en sort.
C'est du bricolage.
Parce qu'il a des joueurs magnifiques.
Les joueurs derrière, voilà. Sont jamais à leur poste.
Mais ce supplément d'âme là, qu'il arrive à insuffler à ses joueurs, je me demande si peut-être que le tuyau n'était pas un peu bouché cette semaine.
Après, Jean-Philippe, il bricole depuis le début de saison.
Oui, bien sûr.
Moi, c'est ça qui me surprend le plus, c'est que quand tu vois les latéraux du Real Madrid, ils ne sont pas du tout... Bon, là, c'est Valverde, mais ce n'est pas sa place. Ils ne sont pas du tout au niveau.
Ce n'est pas sa place. Alaba, il revient de blessure.
Ils ne sont pas au niveau. Fran Garcia qui rentre, même Mendy, que je trouve très décevant.
Je suis d'accord.
Cette saison, ils ne sont pas du tout au niveau.
Mais jusqu'à présent, ce qui était étonnant, c'est que le Real est passé à chaque fois.
Après Jean-Philippe, les deux coups francs là, sincèrement, qui pouvait l'imaginer? Et je vais te dire, même les coéquipiers de Declan Rice, personne pouvait l'imaginer.
Il a jamais marqué un but sur
coup franc. Non, mais il y a des moments rares comme ça dans le football. Je pense que c'est franchement les deux. T'as l'impression que ça vient d'ailleurs. C'est comme Thuram qui met deux buts en
c'est exactement. C'est la comparaison que j'ai pris.
C'est il y a un truc qui descend du ciel et il faut quand même ça.
Et Courtois en plus en face, parce que Courtois tout ce qu'il a arrêté pendant le match.
Un super match jusque là.
Donc Courtois d'ailleurs qui se trompe sur le mur.
Oui.
Parce que mettre quatre mecs dans le mur avec rien sur le côté. Il l'a dit après. Il a dit j'ai fait une erreur, etc. Il l'a payé cher. Mais tu vois, pour mettre à terre quand même ce Real Madrid, il faut un truc qui descend du ciel. Le mec qui met deux coups francs, il leur mettra peut-être plus jamais de sa vie. Et là, quand même, c'est un truc incroyable. Bon, après, ils ont fait des sauvetages sur la ligne. Ils auraient pu prendre 6-0 hier. Le Real Madrid, c'était complètement dépassé.
C'est ça qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient éteints.
Mais
et dépassés.
Voilà. Et
KO. Voilà. Et sans ressort. Voilà. Donc, est-ce que ça vient pas de l'entraîneur?
Est-ce que ça veut dire que Arteta était, lui, par contre, complètement au diapason par rapport à cette équipe qu'il façonne depuis 2019?
Après, le retour de Saka a aussi amené des choses, parce qu'il a quand même fait un travail sur Alaba, sur le côté, là. Franchement, il a été impressionnant.
Deux coups francs et deux buts.
Non, mais voilà. Et en plus, lui-même, dans le travail qu'il a fait sur Alaba, où il y aurait éventuellement pu y avoir des buts avant, avec un vrai numéro 9, puisqu'on parle des faux numéro 9 des Espagnols qui adorent. Mais là, franchement, si tu avais eu un vrai mec qui sentait le coup,
ils auraient pu... Merino joue uniquement numéro 9 avec l'équipe d'Espagne, il est champion d'Espagne, avec l'Espagne.
On a bien senti
qu'il y a beaucoup de blessés aussi à Arsenal.
Mais c'est ça, il y a des blessés à Arsenal, Arteta, mais l'esprit...
Il y a un chemin de jeu, enfin un schéma de jeu, pardon, très
Arsenal défend très très bien. C'est une équipe qui est très difficile à jouer parce qu'elle défend très très bien. Et c'est là où elle a mis en lumière peut-être la difficulté aussi du Real de trouver les solutions face à une équipe qui défend bien comme ça.
Et Nabil avait beaucoup parlé hier, et c'est ce qu'on a vu aussi, le milieu de terrain d'Arsenal.
Peut-être pas, mais Arteta, c'est un entraîneur génial. Pour tous ceux qui n'ont pas vu sur une certaine plateforme, il y a une saison d'Arsenal, il y a 2 ans, je crois, où on voit Arteta, comment il manage ses joueurs, comment il intervient avec sa passion qui est infinie.
C'est un gars
incroyable.
Il est fait par le club et
il est aujourd'hui adoré et adulé par tout un stade.
S'il arrive à passer, après le Paris Saint-Germain peut-être, qui dispute son championnat de Première Ligue,
je ne sais pas
ce qui se passera, mais en tout cas, c'est génial pour Arsenal.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir débriefé comme ça, décodé cette soirée de Ligue des Champions et de quart de finale, tant à venir que passé. On se retrouve donc dans la deuxième édition de Radio Foot International. Bon match et à tout à l'heure.